Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci de nous sanctifier par cette parole, Seigneur. Merci de nous rendre attentifs et qu'elle pénètre notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui envoies ton Esprit Saint pour une meilleure compréhension, Seigneur. Non pas ma bouche, mais ton Esprit Saint, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, comment lisez-vous la Bible? De gauche à droite? D'accord. Dans un rouleau? Les yeux ouverts? Je me suis remis beaucoup en cause ces derniers temps sur ma manière de lire la Bible. Alors, je parle pour moi, vous la lisez bien. Parce que je me suis rendu compte que pendant 40 ans, au moins, ouais, un peu plus de 40 ans, on lit la Bible avec un prisme de tradition religieuse. On est né chrétien. On la lit avec un prisme chrétien. Un juif à côté va la lire avec un prisme juif. Un musulman va la lire avec un prisme musulman. On la lit aussi avec le contexte de notre époque. Là, on est tous chrétiens, on a 2000 ans de tradition romaine. Et bon, forcément, Jésus était chrétien, et les apôtres étaient chrétiens, et les juifs étaient chrétiens. Oui, mais c'est comme ça que je la lisais. Hein. C'est des juifs, sauf que pas toujours. On a, dans notre méthode d'interprétation, des présupposés, soit théologiques, parce que mon pasteur, quand j'avais 16 ans, il m'a dit, sur tel verset, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, la fin des temps, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, 7 ans et demi, enlèvement, bazar, truc, hop. Mais tu as lu ça où ? Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Donc, je me suis rendu compte que je ne lisais pas la Bible de manière objective. Que je dis la manière objective, c'est selon la vérité. La vérité, et quand je dis la vérité, c'est la vérité de Dieu. Alors, comment doit-on faire pour lire la Bible de manière objective ? Un. Vous le savez, hein. J'espère que je vous enseigne rien. Là. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Avant tout. Avant toute chose, avant même d'ouvrir le zip autour de la Bible, demandez l'aide du Saint-Esprit. Lisez pas la Bible parce que vous avez chanté à l'école du dimanche, lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Donc aujourd'hui, il faut absolument que je lise 3 chapitres. J'ai pas le temps, mais il faut que je le lise. Et je le lis. Et je suis content. J'ai fait ma BA. Ah, j'ai lu la Bible. Ah oui, je lis la Bible. T'es sûr que tu lis la Bible ? Tu ouvres la Bible. Il n'y a qu'à moi que c'est arrivé, ce truc-là ? Ah non. Hein, parce que se forcer à lire 3 chapitres ou la Bible en un an, oui, non. Je préfère que tu lises un chapitre une semaine, mais que tu le lises dans tous les sens. Tentez aussi prendre conscience de nos idées préconçues. Alors, qu'est-ce que sont nos idées préconçues ? C'est de dire, bah, c'est notre théologie. C'est de dire, moi voilà, ça c'est forcément comme ça, puisqu'on me l'a dit comme ça. Mais celui qui te l'a dit comme ça, il l'a su d'où ? Bah, parce que quelqu'un d'autre lui a dit de ça. Et l'autre qui lui a dit de ça, il l'a su d'où ? Bah, parce qu'on lui a dit. C'est un peu comme la fake news. Ah, moi, je suis témoin parce que la concierge de la grande sœur de mon oncle, il l'a vu. Mais qu'est-ce qui est vraiment écrit ? Est-ce que vous l'avez vu, écrit ? Tentez de rééquilibrer les idées préconçues. Se montrer moins dogmatique. J'ai fait une erreur l'autre jour en disant à Yolande que les Esséniens avaient le parler en langue. C'est une erreur. C'est un raccourci. C'était pas le parler en langue. C'était le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas quel est le raccourci qui me fait dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est forcément le parler en langue. C'est une idée parce que je suis né dans une église pentecôtiste. Et ça y est, j'envoie à Yolande le fait que les Esséniens, ils parlaient en langue. Rien qu'il le dit même dans les écrits anciens. Par contre, il est dit dans les écrits anciens qui connaissaient le baptême dans l'esprit. À tel point que Jean-Baptiste, qui était bien formé par les Esséniens, pour ne pas dire Essénien lui-même, quand il a dit « Moi, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et d'Esprit Saint », personne n'a réagi. Ce n'était pas une onction nouvelle qu'il annonçait, puisque sinon il aurait dit « Celui qui vient après moi vous baptisera d'eau et vous donnera une onction nouvelle que personne ne connaît, par le Saint-Esprit. » Saül, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Le roi Saül qui a été rejeté après. Bien sûr, le Saint-Esprit ne venait pas de manière permanente. Mais il connaissait le Saint-Esprit. Après, il est venu à la Pentecôte, sur l'Église, de manière glorieuse et de manière vraiment avec le parler en langue. Mais avant, voilà, c'est les idées préconçues, je fais un raccourci. Ça, ça veut dire ça, donc je le mets dans la boîte là. Ça, ça veut dire je classe. Je classe, sans réfléchir. Il faut rééquilibrer ses idées préconçues, se montrer moins dogmatique, examiner toutes les hypothèses, même celles qui ne nous plaisent pas. Tiens, il y a mon frère, là, qui n'est pas du tout de la même église, qui lit ce passage comme ça. Peut-être que c'est lui qui a raison. Peut-être pas moi. Examinons les Écritures. Nous devons faire pas mal d'exégèse. Vous savez ce que c'est, exégèse ? C'est un mot très spirituel. Ça fait tout de suite prof de faculté théologique. L'exégèse, vous pouvez en faire vous-même, hein, ce n'est pas réservé au bac plus 5 de la théologie. Exégèse, c'est facile. Hein. C'est mille et mi, en hébreu. Mille et mi, c'est qui à qui ? Qui a dit ça ? À qui l'a-t-il dit ? Après, on peut rajouter lama. Lama, ça veut dire pourquoi ? Pourquoi a-t-il dit ça ? À quelle époque a-t-il dit ça ? Comment ceux qui ont reçu la parole au moment où ils l'ont dit, l'ont-ils compris ? Et, plus important, parce que ça ne sert à rien si vous ne le mettez pas en pratique, c'est quelles sont les conséquences de cette parole pour moi, pour nous, Église, pour nous qui sommes croyants. À chaque fois que vous lisez un chapitre, et l'exégèse aussi, c'est ne pas saucissonner, c'est pas cacher le saucisson, ne pas saucissonner la Bible en des versets. La lettre aux Romains, par exemple. Moi, je vais te prendre le chapitre 7 parce qu'il m'arrange. J'ai oublié le chapitre 14 parce qu'il ne m'arrange pas. Mais quand ta fiancée écrit une lettre ou que quelqu'un t'écrit une lettre, est-ce que tu regardes la phrase du bas parce que celle-là me plaît bien, je t'aime. Et puis avant, elle dit je veux être séparé de toi. Non, ça me plaît pas. Non. Tu prends la lettre en entier. Lisez, si vous lisez une lettre de Paul, si vous voulez comprendre quelque chose sans idée préconçue, en rééquilibrant les choses, bah, recevez la lettre de Paul comme s'il vous l'écrivait à vous. Qu'est-ce qu'il veut lui dire ? Alors, il ne vous l'écrit pas à vous, justement. Il l'écrit aux Romains, à l'église de Rome. À quelle époque il l'a écrite ? Pourquoi il l'a écrite ? À quoi ça servait ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Qu'est-ce qui se passait dans l'église de Rome ? Alors j'avoue que des fois, Maintenant qu'on a Internet, alors bon, attention avec Internet aussi, prenez les bonnes sources. Quand vous avez Internet, vous pouvez avoir accès maintenant à des connaissances qu'il aurait été impossible d'avoir il y a 20 ans. Vous avez des bibliothèques entières, vous pouvez lire le Didache, vous pouvez lire les Pères de l'Église, vous pouvez lire Eusèbe de Césarée, vous pouvez lire Polycarpe de Smyrne. Tous ces gens qui ont été à la tête de l'Église juste après les apôtres, dont certains ont complètement dévié d'ailleurs, mais on peut lire comment était l'Église primitive en l'an 100, en l'an 200, en l'an 300, en l'an 400, en l'an 500. Comment était l'Église de Rome à l'époque où Paul écrivait ses lettres. Vous lisez, si vous lisez bien certaines épîtres, vous pouvez voir qu'à un moment, il a fait une lettre aussi à l'Église de Laodicée. Et il a demandé à l'Église, alors je ne sais plus laquelle c'était, si c'était Colossien ou Éphésien, il a dit, bah, lisez cette lettre chez vous, puis après donnez à Laodicée pour qu'il la lise aussi. Et Laodicée a reçu un courrier de ma part, ils sont en train de la lire, ils vont vous la donner aussi. Cette lettre-là, on ne l'a pas. Mais Paul, il en a écrit plein de lettres. Hein. Voilà comment faut lire la Bible, la remettre dans son contexte. Paul a écrit des lettres. Et Paul n'est pas supérieur aux enseignements de Yeshua. Il y en a qui veulent... Moi, les évangiles, je ne les lis presque plus. Maintenant, c'est Paul qui est ma doctrine. De quelle autorité ? Et Jésus là-dedans. Alors maintenant, je vais vous poser une question pour voir si vous avez bien lu la Bible. Qu'est-ce que l'évangile ? Ça veut dire en grec, bonne nouvelle. Bonne nouvelle de quoi ? Ça veut dire quoi ? Le royaume de Dieu s'est approché. Quand on dit maintenant on prêche l'évangile, qu'est-ce qu'on veut dire ? Moi, je comprends le salut en Jésus-Christ qui est mort, crucifié, qu'il a donné, versé son sang pour moi, qu'il est mort et qu'il est ressuscité surtout, hein, et qu'il nous a justifié des œuvres de. Nous a justifié et qu'il nous a rendu capables d'accomplir les œuvres de la loi. Chose qui était impossible à l'homme. Dieu a toujours demandé à l'homme, il a donné la loi de Moïse à l'homme pour que l'homme la suive. Sauf qu'il y a une autre loi, quand vous lisez l'Épître aux Romains en entier, vous comprenez qu'il y a une autre loi qui n'est pas la loi de Moïse, qui est notre ancienne nature, la loi du péché en nous, qui nous rend sans force et qui fait ce qu'on ne veut pas faire. Hein, vous la connaissez, ce passage de Paul. J'ai dit, bah alors, si c'est plus moi qui pêche, c'est la loi du péché en moi, je ne suis pas responsable. C'est pas la loi de Moïse, attention, parce qu'il parle de loi, 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 loi. Il y a la loi du péché, la loi de Moïse et la justification en Jésus-Christ. La justification en Jésus-Christ nous rend juste aux yeux de Dieu. Ce que la loi de Moïse, même si vous la suivez à 100%, n'est pas capable de vous justifier. Par contre, la loi de Moïse est capable de vous montrer ce que Dieu veut pour vous. C'est pour ça qu'il l'a inscrite dans notre cœur aussi. Sur le papier, mais aussi dans notre cœur. Et par contre, on a tous les juifs, tous les chrétiens, sont dans la condamnation parce qu'ils ont beau avoir la loi, s'ils ne connaissent pas le Messie qui les libère, ils ne sont incapables, eux et moi, de suivre cette loi. On est esclaves du péché. Et la bonne nouvelle, c'est le sacrifice de Yeshua et sa résurrection nous a permis de mourir, nous, d'être crucifiés avec lui et d'être ressuscités avec lui en nouveauté de vie, c'est-à-dire on n'est plus obligé d'être sous la loi du péché. Ça a été vaincu. Alors bien sûr, notre problème avec notre âme, c'est qu'on a tellement cru qu'on était esclave du péché, qu'on croit encore qu'on est esclave du péché. Et c'est tout le combat de la vie chrétienne. Voilà ce que c'est que l'évangile dans la grande dans la grande base, tel que nous, moi je le comprends maintenant, et qui a été dit, mais pas que ça. Si vous faites de l'exégèse, et apparemment Vincent en fait, l'évangile, tu peux répéter ? C'est quoi l'évangile ? C'est quoi la bonne nouvelle ? Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Remettons-nous dans le contexte de l'histoire. Jésus, Yeshua, est-ce qu'il arrivait dans les synagogues avec ses apôtres et qui disait, bon ben voilà, écoutez les gars, je suis le Messie, je vais mourir, je vais ressusciter, vous allez vivre en nouveauté de vie, croyez en moi, acceptez-moi comme votre sauveur et Messie, et vous serez sauvés. C'est le message de l'évangile. Hein. Est-ce qu'il a dit ça ? Non. Il a même interdit à ses apôtres de dire qu'il était le Messie, parce que Pierre l'avait déjà grillé, disant tu es le Messie, tu le fils. Il a dit, ouais, je vous interdis, c'est écrit dans Matthieu 16, je vous interdis de le lire. Donc il était le Messie, mais... Et qu'est-ce qu'il disait ? Simplement, je prêche le royaume de Dieu, je prêche le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comme ceci, regardez toutes les paraboles. Le royaume des cieux, c'est comme. Le royaume de Dieu, c'est comme. Ça dépend de si c'est Matthieu ou Jean ou Luc. Mais c'est quoi ce royaume dont il parle ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Alors certains diront, ben, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Et je dirais oui, c'est le roi de ce royaume. Mais pas que. C'est le roi de son royaume. Donc c'est normal qu'il vienne, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ben oui, si ton roi vient à toi physiquement, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, forcément, tu es. C'est le roi. Donc si le roi est là, le retour du roi, ben, le royaume est là. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais parlé de la vision d'Ézéchiel. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Ézéchiel 37, où il parlait des ossements desséchés, qui est bon, la parabole de du rassemblement d'Israël, du rassemblement du peuple juif sur sa terre, de sa résurrection, qui aujourd'hui n'a pas encore eu lieu. Il y a sa résurrection physique, c'est-à-dire la chair est là, les os sont rassemblés, le peuple est rassemblé, et il va continuer à l'être de plus en plus. Mais l'esprit n'est pas là. L'esprit des 80 n'est pas là, et quoi qu'il commence à souffler, il y a beaucoup de plus en plus de juifs qui se convertissent à Yeshua, mais la nation entière n'est pas... Et après ça, il y a l'autre vision, à partir qui est parlé des deux bois. Vous savez, le bois d'Éphraïm, j'ai déjà prêché là-dessus, le bois d'Éphraïm et le bois de Juda. Alors certains diront, oui, mais si tu prends ça à l'époque avec de l'exégèse, c'est les 10 tribus d'Israël qui avaient fait sécession. Vous savez que le royaume d'Israël, finalement, il n'a existé que pour David et Salomon. Et même David, pas au début. Hein. Au début, il avait que Juda, il était à Hébron, il n'était pas à Jérusalem. Mais après, il a eu toutes les tribus et il y a eu le royaume d'Israël, le vrai royaume d'Israël terrestre qui a existé pendant David et Salomon. Et après, division. Division, 10 d'un côté, 2 de l'autre. Donc les 10 d'un côté, c'était, je ne vais pas les citer, les 2 de l'autre, c'était Juda et Benjamin. Avec une partie de Lévi, puisque le temple était à Jérusalem, les Lévites étaient à Jérusalem aussi. En 150 ans, donc 150 ans, ça fait en 750 avant Jésus-Christ, les Assyriens arrivent, ils chopent tout le monde, toutes les 10 tribus du Nord, ils les emmènent en Assyrie. En 600 après Jésus-Christ, enfin en 590 après Jésus-Christ, Il chope les deux tribus du sud, Benjamin et Judas, et c'est Nebuchadnezzar, là, cette fois-ci, qui les emmène à Babylone pour 70 ans. Ils reviennent 70 ans après sur la terre d'Israël, il n'y a plus que deux tribus. Judas et Benjamin. Les autres sont partis et se sont dilués dans les nations. Éphraïm. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Certains pensent qu'il y a des Arméniens, il y en a quelques-uns qui sont partis, on ne sait pas. Et là, on ne va pas faire des plans sur la comète, on ne sait pas où elles sont. Donc aujourd'hui, quand on parle de juifs, on ne parle pas d'Israël, on parle de juifs. Les juifs, ça veut dire Yehuda. Yehuda, c'est la tribu de Judas. Les juifs actuellement, ceux qui sont juifs, on devrait appeler judéens d'ailleurs, sont ceux de Judée. De Judée, et il n'y a que plus que deux tribus ennemies qui se revendiquent Israël. Les autres dispersés dans la nature. À l'époque de Jésus, c'était déjà comme ça. Les 10 tribus, elles étaient parties dans la nature. Alors, c'était quoi le ministère de Jésus? On peut le lire dans Matthieu 10. Vous pouvez le lire. Il envoie les disciples en mission. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà la mission qu'il a donnée à ses disciples. Allez vers les enfants perdus d'Israël, et quand il disait là d'Israël, c'était de Judas, les Judéens et les Benjamites qui étaient là, parce que les autres étaient déjà plus là. À tel point qu'on peut dire que c'est très dur, puisque Matthieu 15, au verset 21, Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire au Liban. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Et il répondit « Je n'ai été envoyé qu'au Et c'est le co brebis perdu de la maison d'Israël. C'est dur. Après, bon, la femme a la foi en disant elle vient se prosterner et Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Oui, mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et c'est là que dit, ta foi est grande et qu'il te soit fait comme tu le veux. C'est des passages comme ça, on les lit, on a l'habitude de les lire, mais imaginez, vous allez à Jésus. Et Jésus, il dit, c'est bien, c'est pas pour toi. Circuler, il n'y a rien à voir. Remettez-vous dans le contexte, quoi. Par contre, quand vous lisez dans Marc 16, au verset 15, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera point fait de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et après cela, il fut enlevé dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé entre je suis venu pour rassembler que les brebis d'Israël et maintenant aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Le roi, effectivement, la croix. Le roi a donné son sang et il est ressuscité pour le monde entier. Et donc, l'évangile, le royaume de Dieu, c'est de rassembler. C'est de rassembler, c'est d'unir. Dans Jean 10, vous pouvez le lire. Et la mission de Jésus, là, qui disait aller par le monde entier et prêcher l'évangile, en fait, dans d'autres passages, il est marqué aller dans le monde entier et faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus a dit allez par le monde entier et faites des chrétiens en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le mot n'existait pas. D'abord, le mot, c'est une insulte, c'est un sobriquet. On pourrait dire faites des Nazaréens. Pareil, ça existait, ça. Dans Jean 10, qu'est-ce qu'ils disent? Au verset 14. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il n'y aura qu'un seul troupeau, qu'un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Et certains même disent, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Alors déjà, ça tord le cou déjà à une grande hérésie que certains hommes politiques récents ont encore ressorti dans une manifestation. Les Juifs n'ont pas tué Jésus. C'est lui-même qui s'est livré à la mort. Personne ne me l'ôte. Moi, j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. C'est un sacrifice volontaire, un sacrifice volontaire. Bien sûr, comme Jésus respectait la loi de Moïse, le sacrifice de Pessah, le sacrifice de l'agneau de Dieu, qui est finalement l'image de Pâques, un seul peut le faire, ce sacrifice, c'est le grand sacrificateur. Donc il est normal que ça soit Caïphe qui ait livré Jésus aux Romains, puisque c'était le grand sacrificateur de son époque, c'est normal. C'est un respect de la loi de Moïse. Il aurait pu être livré directement aux Romains sans passer par les Juifs. Mais non, Dieu a sacrifié son fils. Donc il fallait que ça soit fait, pas dans le temple quand même, mais que ça soit le sacrificateur qui soit la cause de sa mort. Ne perdons pas de vue ça dans le contexte juif. Parce que notre problème, nous, c'est qu'on lit la Bible avec un contexte romain. Et comme disait Astérix, ils sont fous ces Romains. D'autant plus qu'on est gaulois, donc... enfin, pas tous. Donc, attention au raccourci. Le but de Dieu, c'est de rassembler son peuple. À la fois le peuple d'Israël, qui a été perdu, on ne sait où. Le peuple de Juda, qui on sait où il est actuellement, qui se rassemble sur la terre d'Israël. Et le peuple d'Éphraïm, si on peut l'appeler comme ça, qui est le peuple spirituel aussi, mais peut-être aussi matériel, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas d'où on vient, donc finalement. Peut-être qu'on est dans les 10 tribus des perdus. Hein, Dieu seul nous le dira. Je ne vais pas faire des plans sur la comète en disant qu'on est des anciens d'Israël, non. Mais spirituellement, si tu as cru en Jésus, tu participes aux alliances. C'est écrit dans Éphésiens 2, hein, si vous ne savez pas. Éphésiens 2. Au verset 11. Souvenez-vous donc de ceci. Il parle donc l'épître aux Éphésiens. Normalement, je devrais lire tout l'épître, mais je vous fais grâce parce que il y a peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé à faire cuire un poulet. Éphésiens au chapitre 2, il parle aux, donc les Éphésiens, c'est des Turcs. Éphèse est en Turquie. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous païens dans la chair, dans votre corps, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et qui le sont dans la chair par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans Messie, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus le Messie, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Christ, Messie, ça veut dire la même chose. Car c'est en lui notre paix, lui qui des deux qui ? Des païens qui ont cru et des juifs, des circoncis. N'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié, qui a dans sa chair annulé la loi dans ses commandements, avec ses commandements et leurs dispositions, pour créer sa parole avec les deux, pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en les faisant mourir par elle, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix pour vous qui étiez loin et la paix pour ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous qui avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, en lui, tous les édifices bien coordonnés s'élèvent pour un temple saint, pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu nous appelle. Il est la pierre angulaire, la base de la construction. Si vous allez à Jérusalem, vous verrez le pinacle du temple. Les pierres angulaires font 14 mètres de long. C'est bien solide. Les Romains, ils n'ont pas pu la détruire, celle-là. Et le temple, élevé au-dessus. Le temple, c'est qui ? C'est nous. C'est nous. Vous savez, un truc qui est quand même assez étonnant, et je l'ai expérimenté moi-même, et je pense que Jeanne a dû l'expérimenter, David aussi, peut-être JP, quand on va en Israël, on a l'impression d'être chez soi. C'est-à-dire, bon, quand je vais dans un pays étranger, quand je vais en Suisse, je suis en Suisse, quand je vais en Allemagne, je suis en Allemagne, quand je vais en Angleterre, je suis en Angleterre, je n'ai pas l'impression d'être chez moi. J'arrive en Israël, j'ai l'impression d'être chez moi. Et tout le monde me dit, mais c'est vrai, ici, on a l'impression d'être chez nous. Mais c'est que les chrétiens qui me disent ça. Hein. Quoi qu'il y a des non-chrétiens aussi qui me le disent. Mais bon, peut-être qu'ils vont le devenir. Pourquoi ? Nous étions étrangers, mais maintenant, nous sommes concitoyens. C'est-à-dire, nous sommes membres de la famille, on a été édifiés. Et à un moment, il est dit aussi que vous... je ne sais plus si c'est ici, où il dit qu'on même on hérite la terre. C'est-à-dire que le pays est à nous aussi. Des chrétiens, enfin des païens, qui ceux, par contre, ils ont certaines conditions. Ils ont certaines conditions. Dans Romains 11, au verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a eu un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux quand j'entourerai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, la bonne nouvelle, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Israël s'est endurci pour que les païens puissent venir. C'était voulu par Dieu. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. D'ailleurs, il est dit à un moment que Jésus parlait en parabole de peur que le peuple comprenne et se convertisse. C'est dur, ça aussi. C'est Isaïe qui le dit. Jésus parlait en parabole. Il racontait des histoires. Il ne parlait pas directement en disant voilà, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Parce que Israël ne pouvait pas faire autrement que s'endurcir. Pourquoi ? Parce que Dieu rassemblait son peuple. Pour nous, si Israël s'était converti, ils auraient accepté le Messie, le royaume d'Israël serait venu, et nous, on aurait été exclus. Comprenez, hein, c'est pas parce qu'ils étaient méchants. Nous aussi, on est méchants. Ils ont été méchants aussi. Mais nous aussi. Jean 17. C'est étonnant ce que ce matin, Yolande l'a cité. Jean 17. Au verset 20. Ce n'est pas pour eux que je prie. On va parler de ses disciples. Hein. On peut le lire même à partir du verset 10, Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est qui ceux qui croiront en moi par leur parole ? Ben, c'est nous. Parce qu'on me l'a dit, on me l'a dit, on me l'a dit. Donc nous, on a cru en Jésus parce que quelqu'un nous l'a dit. Peut-être que Dieu vous l'a dit directement hein, aussi, ça peut arriver. Afin que tous soient un. Waouh ! Afin que tous soient un. Comprenez, lisez bien là. Comme toi, Père, tu es en moi, moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé dès la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. J'aurais fait connaître ton nom, je l'aurais fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Alors je regarde maintenant ce qui se passe autour de moi. Est-ce qu'on est un ? Certains disent, c'est à vérifier, qu'il y a 40 000 dénominations chrétiennes dans le monde, dans l'histoire de l'Église. Bien sûr, elles ne sont pas 40 000 là maintenant, mais dans toute l'histoire de l'Église, il y en a eu 40 000, entre 30 et 40 000, on n'est plus à 10 000 près. Actuellement, il doit bien en avoir 5 000 dans le monde. Entre ceux du septième jour, ceux du machin, ceux du royaume de Dieu, ceux de l'église nouvelle, ceux de l'ancienne église, j'en passe et des meilleurs, qui se revendiquent chrétiens. On se cause pas. Hein. Je parle des juifs. Ils sont un peu plus sérieux. Ils sont peut-être une trentaine de dénominations. Jésus revient chercher son épouse. Comme diraient les tontons flingueurs, elle sera dispersée façon puzzle. Ils connaissent pas Raoul. Est-ce que vous pensez que Jésus va revenir là ? Maintenant, tout de suite ? Oui, bien sûr, Jésus va revenir chercher son épouse. Son épouse. Pas des rondelles de saucisson. Son épouse. Qui sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Voilà ce que c'est que l'évangile. Oh, maintenant, ça y est, j'ai plombé l'ambiance là. Un petit peu. Ben non. Matthieu 23. Alors, Matthieu 23. Au verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baro, Rabba, Bechem, Adonai. C'est bizarre parce que ça vient d'être dit. Vous remontez un petit peu le chapitre. En fait, c'est ce que disent les... Quand ils rentrent à Jérusalem, c'est ce que disent les gens, les foules. Alors, je ne sais plus où c'est. Duc, duc, duc. Vous remontez. Verset au chapitre 21. Au verset 9. Les foules précédaient et disaient et suivaient Jésus en disant Hosanna, Hosanna. Au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. C'est dans Matthieu 21. Et Matthieu 23, il dit, vous me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous dites ça. Sauve-nous, Hosanna, ça veut dire sauve-nous. Hein. Et vous savez que cette parole-là, elle est dite à un seul moment, à une seule fête juive. Ça aussi, c'est intéressant, il faudra qu'on voit pour les fêtes juives. C'est à la fête de Soukhot, qui est la fête du Messie, c'est la fête finale de l'arrivée du Messie. À Soukhot, il y a trois fêtes. C'est la fête des cabanes, donc on est dans des habitations temporaires. C'est la fête du Messie, c'est là où le Messie revient, enfin vient, parce qu'il ne revient pas pour les juifs, il vient. C'est là où le peuple chante, et encore aujourd'hui, ça s'appelle les Oshianotes. Ça veut dire sauve-nous, fais-nous grâce. C'est des prières qui sont chantées actuellement au Kotel. Et c'est là qu'on dit Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la fête des trompettes. Et après, Yom Kippour, qui est le jour du jugement. Et après, la nouvelle année. Nouvelle année, nouvelle ère. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens qui sont là, à Jérusalem, ils sortent ça comme si c'est le fils de David quand même. Hein. C'est pas... Donc les gens disent, ni plus ni moins, chantent, ni plus ni moins, que Jésus, Yeshua, est le Messie. Il rentre et d'ailleurs il dit, à un moment, Jésus parle à Jérusalem et dit, voilà, si tu pouvais savoir le temps où tu as été visité, parce qu'il accomplissait toutes les prophéties là de... Mais le temps n'était pas le temps. Pourquoi c'était pas le temps? Ben parce que c'était la fête de Pâques. C'était la fête de Pâques aussi. Ce passage-là s'est passé le jour de la fête de Pâques. Jésus est arrivé à Jérusalem, non pas à la fête des tabernacles, mais à la fête de Pâques. Donc ça voulait dire que si c'était la fête de Pâques, c'était pas le temps. C'était le temps du sacrifice. C'était le temps de l'agneau pascal. Comment ? Oui, enfin, c'est la semaine sainte, mais c'est la fête de Pâques. Ça dure 7 jours, la fête de Pâques. Hein. C'est pas une soirée, ça dure 7 jours. C'est à la fête de Pâques. Je suis l'agneau de Dieu qui vient pour ôter le péché du monde. Je suis l'agneau de Dieu qu'on doit sacrifier, qu'on doit mettre sur les linteaux de sa porte pour être sauvé du destructeur et du jugement de Dieu, tout simplement. Et les gens, ah ben c'est le Messie, oui, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et tout d'un coup, il est crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Et quand tu regardais ceux d'Emmaüs, ils disent, on avait cru que c'était lui le Messie, que c'était le roi, enfin qu'il allait arriver. Et ça ne s'est pas passé comme ça, quoi. Il y a quelque chose il y a eu un bug. Ben oui, c'était Pâques. Dieu encore est très, 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 très minutieux dans les temps, les périodes. C'est la fête de Pâques. C'est pas la fête du Messie. Il y a la fête de Shavuot, qui est la fête de la Pentecôte, que vous connaissez sous le nom de la Pentecôte. C'est quoi la fête de Shavuot? C'est la fête de la moisson. Ça nous donne les provisions, la moisson, le blé, pour vivre. C'est la fête de la Torah. C'est là où Moïse a donné la loi au peuple d'Israël. Et c'est la fête du Saint-Esprit. C'est là où Dieu a donné le Saint-Esprit au peuple d'Israël. Ah, ça vous choque, vos chrétiens, hein, au peuple d'Israël. C'était à Jérusalem, la plupart étaient juifs, mais c'était aussi aux chrétiens, aux païens, on va dire. C'était la provision. Et après, on doit tenir tout l'été. Et après, il y a la fête de Soukhot, là où le Messie va revenir. Et si vous regardez ça, pour ceux qui connaissent un petit peu, le temple de Jérusalem, qu'est-ce que vous avez? Vous rentrez dans le temple, vous avez l'autel des sacrifices, Pessah. Après, vous rentrez dans le bâtiment, dans le lieu saint. Qu'est-ce que vous avez? Le chandelier, Saint-Esprit, qui brûle avec les 7 esprits de Dieu. Et vous avez quoi? Les pains de proposition. C'est la fête des moissons. C'est la fête de la provision. Ça vous donne le pain. L'autel des parfums, qui sont les prières. Mais qui sont aussi tout ce qu'on peut apporter en prémisse à l'Éternel. Et après, il y a quoi? Il y a le voile qui a été déchiré, mais qui a été recousu. Ne vous inquiétez pas. Il y a le voile qui cache au peuple juif, encore aujourd'hui, la révélation du Messie. C'est dommage, parce que il faut que les païens, que tout Israël soit entré. C'est pas qu'ils sont méchants, hein. C'est que Dieu fait ça pour sauver des gens. Et une fois que ce voile sera déchiré, ce sera la fête des cabanes. Et là, tout le monde rentrera dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, qui est la fête des tabernacles. Il est dit, je ne l'ai pas pris, mais il est dit à un moment qu'il arrivera des temps où toutes les nations monteront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles, la fête de Soukhot, parce que tabernacle c'est toujours très pompeux, la fête des cabanes, pour adorer, pour se prosterner, pour adorer. Où ça? À Jérusalem. Vous allez me dire c'est spirituel. Non, c'est pas spirituel. Pas que. C'est spirituel, mais aussi physique. Et puisqu'on parle de prophéties à venir, je vais terminer par ça, on pourrait en parler, je vous dis, toute la journée. Mais je ne veux pas non plus vous donner un mal de crâne. Ésaïe 56. Verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amène sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans la maison de prière, dans ma maison de prière. Leurs sacrifices et leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Oracle du Seigneur l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Celui qui rassemble les bannis d'Israël, ok, ça je comprends, j'en rassemblerai d'autres, c'est qui d'autres ? Avec les siens déjà rassemblés. À l'étranger, qui garde mon alliance, qui garde mes sabbats. Et quand on parle ici, c'est écrit ici d'ailleurs, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le temple de Jérusalem, il n'était pas que pour les Juifs. Hein. Et c'est le passage que Jésus a sorti justement le jour où les gens ont dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il est allé, la première chose qu'il est allé faire dans le temple, c'est qu'il a été chassé tout le monde en disant ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Il cite ce passage-là. Et vous en avez fait quoi? Une maison de voleurs. Vous savez, enfin on en reparlera peut-être dans des enseignements plus. Qu'on reprendra les enseignements le vendredi. Il était temps que le Messie vienne en Israël, à l'époque de Jésus. Parce que je pense qu'Israël aurait été détruit, n'aurait jamais subsisté si le Messie n'était pas venu à cette époque-là. C'était une telle décadence. On pense que c'était l'âge d'or d'Israël avec le temple, le beau temple qu'il y avait à Jérusalem et tout ça. C'était une des merveilles du monde. Mais spirituellement, il ne restait presque plus rien, quoi. Il restait presque. C'était juste un lumignon qui fume de ce que Dieu avait voulu de son peuple. Et le Messie est venu et il a sauvé. Et c'est comme ça que les Nazaréens, qu'on les appelait comme ça, les Nazaréens ont cru en Jésus. Et c'est pas un truc, là aussi, il faut remettre les choses dans son contexte. À la Pentecôte, à la fête de Shavuot, quand les disciples ont eu le baptême du Saint-Esprit, qui s'est concrétisé par un parler en langue, mais quand je dis un parler en langue, c'est un parler en langue humaine, où tous les gens qui étaient là pour la fête ont entendu parler des gloires de Dieu, de la gloire de Dieu dans leur propre langue. Il y a eu combien de convertis? De gens qui ont cru en Jésus? 3000. On estime à l'époque de la lapidation d'Étienne que les Nazaréens de Jérusalem étaient 10 000. À peu près, parce que Dieu apportait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était un vrai réveil. Hein. Mais dans une ville qui fait, grand maximum, quand tout le monde est là, 100 000 habitants. On peut dire qu'à un moment, il y a presque le tiers, voire la moitié de Jérusalem qui étaient sauvés. Pareil pour Éphèse. Les fesses a tellement mis le bazar qu'à un moment, ceux qui vivaient de la diane des Éphésiens, ils ont levé une émeute en disant « Attendez, c'est plus possible, là. Ils sont en train de nous casser le commerce, il y a trop de chrétiens, il y a trop de nazaréens. » Donc ils ont soulevé, c'est là qu'il a commencé à avoir les persécutions. C'était pas... On parle de reste d'Israël, parce que c'est écrit comme ça, il y a un reste d'Israël, mais à l'époque, c'était... Il y avait pas mal de gens juifs qui croyaient que Jésus était le Messie. Après, ça a mal tourné. Mais au début, c'était comme ça. Et une autre prophétie ? Allez, toujours dans Ésaïe. Ésaïe, c'est le prophète du Messie, hein, donc c'est normal que... Ésaïe 66, on peut déjà lire au verset 7. « Avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs lui viennent, elle a donné le jour à un fils qui a jamais entendu rien de tel, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Ça, c'est ce qui s'est passé en 48. Une nation est née quasiment en un jour. Bon, ça, je veux dire, c'est joli, hein, mais ça, c'est la vision d'Ézéchiel aussi. Hein. Et on va un peu plus loin. Attendez, je reviens. Moi, je connais leurs œuvres au verset 18. Moi, je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et de toutes les langues, et elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai de leur escaper vers les nations, à Tarsi, à Poul, à Loud, les tireurs à l'arc, à Toubal, à Yavan, aux îles lointaines. Carrément les îles lointaines, hein. On peut parler de Tahiti là, qui jamais n'ont entendu parler de moi, qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils annonceront ma gloire parmi mes nations. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ? C'est annoncer l'évangile à toutes les nations. Il faut d'abord que la parole soit prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Ils ramèneront tous vos frères, en parlant des juifs là, c'est vos frères, c'est les juifs, du milieu de toutes les nations, en offrande à l'Éternel. Là, tout à l'heure, on a entendu, parce qu'il y en a un qui dit que comment on peut encore offrir des sacrifices et des offrandes au temple de Dieu. Ben, c'est, là, ils ramènent des gens en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars, des chariots couverts, sur des mulets, des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. Comme les fils d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur, à la maison de l'Éternel, et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des lévites, dit l'Éternel. Comprenez bien le texte. Qui c'est le parmi eux ? Sacrificateur, lévite, c'est qui ? C'est les nations ou c'est le peuple juif ? Je prendrai parmi les nations des sacrificateurs et des lévites. J'ai perdu ma page. Dit l'Éternel, en effet, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais. Tiens, il fait des nouveaux cieux et une nouvelle terre. De nouvelle lune en nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard, car leur ver n'en mourra pas, le feu ne s'éteindra pas, ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Là, vous allez me dire, c'est les temps messianiques. C'est le royaume de Dieu est venu. Il a rassemblé ces deux peuples, la bonne nouvelle du royaume. Actuellement, si vous le lisez dans Luc 21-24, Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Alors j'ai une bonne nouvelle, un évangile à vous annoncer. 7 juin 1967, le temps des nations s'est terminé. Je peux donner une date, là, j'ai le droit, parce que c'est passé. Le 7 juin 1967, Jérusalem a arrêté d'être foulée par les nations. Ça faisait 2000 ans qu'elle était foulée. 67, souveraineté. Alors maintenant, c'est une pierre pesante pour toutes les nations, hein, je vous le dis. On en parle tous les jours à la radio. Quelque chose qui ne nous avait pas réussi, c'était le temps. La nation, le temps des nations. Donc maintenant, ne vous inquiétez pas, hein, on vous parle du Covid-19. Les nations vont s'obscurcir de plus en plus. Par contre, sur toi, Jérusalem, je fais briller la lumière de mon salut. Il y aura deux catégories de gens. À vous de choisir. Ceux qui restent à Babylone, ceux qui sortent de Babylone. Je pourrais parler de Babylone, j'ai plein de choses à dire. D'ailleurs, je ne sais plus, c'est dans Ésaïe 52, avant le Messie souffrant, il est parlé de Babylone aussi. Arrêtez de penser que l'Église va pouvoir continuer sur sa lancée romaine. Il va y avoir des temps où l'Église devra se, même pas se réformer, parce qu'il y a déjà eu des réformes, il devra faire reset. Vous savez ce que ça veut dire, reset sur un téléphone? C'est remettre les réglages constructeurs. Remettre les réglages du constructeur. Tous les trucs que vous avez rajoutés, les applications de ceci, les machins, les trucs, les bidules. Non. C'est je remets à zéro, pouf, je repars du temps de Jésus. J'oublie tout. Et je reprends les réglages constructeurs tels que Dieu a voulu que l'Église, parce que je ne parlerai que de l'Église. Ceci dit, je vous dis quand même une autre bonne nouvelle. C'est que le judaïsme actuel devra faire la même chose. S'ils veulent être de nouveau greffés sur l'olivier. Je renvoie à tout le monde dos à dos. Hein. Le judaïsme de maintenant n'est pas le judaïsme du temps de Jésus. Le christianisme de maintenant n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec, si on pourrait appeler ça comme ça, le christianisme de Jésus. Il va falloir se réformer l'un et l'autre. Voilà le message, mais s'unir. L'union. L'union ne veut pas dire l'écuménisme, hein, attention. Union dans l'esprit de Dieu. Ruach HaKodesh, c'est Dieu qui envoie son esprit. Et c'est cet esprit qui nous unit. C'est pas nous qui allons... l'écuménisme, vous savez ce que c'est? C'est j'oublie tout ce qui dérange pour faire quelque chose de un boogie-boulga, là, je sais pas trop quoi, qui pourrait ne pas choquer mon frère. Non, c'est pas ça. L'union, c'est Dieu va appeler son Église à être unie. Son Église, quand je dis son Église, c'est aussi tout Israël sera sauvé. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Amen. Ouais, c'est terre à terre là, ton truc là. Bon, on va prier. Ouais, vous pouvez vous lever, hein, vous avez le droit. Ben Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Merci de... Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour que tu nous enseignes dans ta vérité, Seigneur, que tu, comme la lecture de la Bible, Seigneur, que tu nous fasses un reset de notre intelligence, Seigneur, non pas pour devenir stupide, mais au contraire pour devenir à l'écoute de ton Esprit Saint, de ce que, comme il est dit dans ta parole, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui a des yeux pour voir, voit. Merci Seigneur de... Prie pour mes frères et sœurs, pour moi aussi, Seigneur, pour que tu nous fasses découvrir des sentiers anciens, que tu nous fasses découvrir ce qu'est vraiment ton royaume, Seigneur. Que ce ne soit pas de la théorie ou quelque chose qui est écrit dans la Bible, dans la lettre morte, mais que ce soit quelque chose qui est vécu. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment faire de ton royaume et de ta justice la première de nos préoccupations, Seigneur. Tu nous as promis que toute autre chose nous sera donnée au plus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Et je bénis les offrandes, Seigneur, qui ont été données. Merci de bénir aussi ceux qui ont donné, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui... Nous sommes dans le temps de la provision, Seigneur. Nous sommes encore dans le lieu saint, Seigneur, avec le chandelier, avec les pains de proposition. Mais nous voulons partager ces pains avec ceux qui ont faim, Seigneur. Spirituellement et matériellement, nous voulons partager, Seigneur, la lumière que nous avons, Seigneur. Nous sommes la lumière du monde et on ne met pas le chandelier, on ne le met pas sous un boisseau. Nous sommes le sel de la terre aussi, Seigneur. C'est ce sel qui permet de donner de la saveur. Que nous n'ayons pas un christianisme triste. Quelque chose, quand on parle des chrétiens, on pense que c'est des gens qui sont contrits et meurtris. Et... Non, nous avons la joie, soyez toujours joyeux, nous avons la joie du Messie ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui. Je veux te remettre, Seigneur, c'est la joie de notre salut, Seigneur. Et je veux vraiment te remercier pour ce sacrifice accompli en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire participer à ces alliances, nous qui ne méritons rien, nous qui étions condamnés. Tu es venu, tu es mort pour nous alors que nous ne te connaissions pas. Nous ne savions même pas qui tu étais. Tu es mort et tu es ressuscité, Seigneur. Et tu nous as appelés par l'esprit d'adoption, Seigneur. Tu nous as adoptés à devenir ton peuple. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment... Donne-nous cette révélation, la pleine révélation de ta grâce et de ton évangile, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, tu es le Dieu d'Israël, tu es un Dieu puissant, Seigneur. C'est toi qui protèges ton peuple, Seigneur. Et c'est toi qui nous protèges, Seigneur. Et tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Que nous ne craignons pas ce que nous allons vivre, Seigneur. Nous allons peut-être vivre des temps difficiles, mais tu es avec nous, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui guérit, tu es celui qui nous donne la provision nécessaire jour après jour, Seigneur. Toi-même as dit, à chaque jour suffit sa peine. Et merci parce que tu révèles ta parole jour après jour, Seigneur. Ni trop, ni trop peu, Seigneur. Comme la manne chaque jour tombée dans le désert, ben nous voulons ton esprit chaque jour pour nous nourrir. Merci, Seigneur. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour cette onction de l'Esprit Saint dans le nom de Jésus, le Messie. Amen. Bon dimanche.